Chapitre 2, 29 Boulevard Lannes. Onésime Coche jeta un long regard autour de lui, s'assura que les rideaux des fenêtres étaient bien fermés, prêta l'oreille afin d'être certain que nul ne viendrait le déranger dans sa besogne, puis, rassuré, il enleva son pardessus, le déposa sur une chaise avec sa canne et son chapeau, et réfléchit. Il s'agissait maintenant de créer de toutes pièces la mise en scène du crime d'Onésime Roche, et pour ce, tout d'abord, il fallait faire disparaître tout ce qui pouvait mettre sur la trace des vrais coupables. Le cadavre découvert, ce qui dans cette pièce retenait d'abord l'attention, c'était les trois verres oubliés sur la table. En omettant de les faire disparaître, les assassins avaient commis une faute grave. Leur négligence suffisait à donner à la justice un renseignement précieux. Un homme seul passe inaperçu, là où trois hommes se font arrêter. Il lava donc les trois verres, les essuya, et avisant à un placard ouvert où d'autres verres étaient rangés, les remit à leur place. Ensuite, il prit la bouteille entamée, éteignit l'électricité afin qu'aucun de ses gestes ne pût être vu du dehors, tira les rideaux, ouvrit la fenêtre, les volets, et la lança de toutes ses forces. Il la vit tournoyer en l'air et retomber de l'autre côté de la chaussée. Le bruit du verre brisé éveilla pendant une seconde le silence. Il se rejeta en arrière et se mordit les lèvres. Si quelqu'un avait entendu, si l'on venait, si l'on me trouvait là, dans cette chambre. La peur qu'il éprouva n'avait rien de comparable à toutes celles qu'il avait connues jusqu'alors. Rapide, incisive, elle le clouait sur place, arrêtant sa respiration. Il eut du moins une seconde très chaud et très froid. Il fouilla la nuit, guetta le silence. Rien. Alors il referma les volets, la fenêtre, tira les rideaux, revint à tâtons jusqu'au commutateur et donna de la lumière. Chose étrange, l'obscurité seule l'effrayait. La lumière faisait s'enfuir toutes ses angoisses. Il connut à cela qu'il n'était pas un vrai criminel, car l'aspect de la victime, loin de grandir son effroi, l'apaisa. Dans le noir, il en arrivait presque à se sentir coupable. Bien éclairés, les objets, malgré l'horreur du lieu, n'avaient plus rien de terrible pour ses regards. Il réfléchit que la peur, le remords devaient être d'atroces choses et qu'il allait lui falloir une rare force d'âme pour en grimacer les tourments. « Je vais, pensa-t-il, être obligé de me combattre et de me vaincre pour ne pas laisser deviner mon innocence autant qu'un coupable pour cacher son crime. » La table débarrassée, il se dirigea vers la toilette. Là, le désordre était si flagrant qu'il était impossible d'admettre qu'il fût l'œuvre d'un seul. Les objets portent en eux le secret des doigts qui les ont maniés. Rien qu'à voir la position des serviettes, on sentait qu'elles avaient été jetées là par des mains différentes. Un criminel ne déplace pas pour son seul usage tant d'objets. L'instinct, à défaut de tout autre raisonnement, l'oblige à faire vite. Par ailleurs, et puisqu'à l'occasion, tout indice devait être interprété contre lui, il était nécessaire que l'homme d'ordre qu'il était reparût jusque dans le crime. Un être méticuleux comme lui n'aurait pas bousculé ainsi les serviettes. Un obscur besoin de rectitude, de netteté, demeure même dans les folies passagères chez ceux qu'une longue habitude des soins de chaque jour a fait soigneux et délicat. Le crime d'un homme du monde ne saurait être semblable à celui d'un rôdeur. L'être bien né se retrouve en toute chose à d'infimes détails. Il se souvint de l'aventure de ce ci-devant attablé sous la terreur dans une auberge au milieu de massacreurs, de tricoteuses, et trahissant son identité malgré un déguisement savant par la façon dont il tenait sa fourchette. On pense à tout, sauf à la petite chose indispensable. Le faussaire déguise son écriture, masque sa personnalité, mais un œil exercé retrouve parmi les lettres contournées, les lignes déviées, les barres volontairement changées, la lettre type, la façon de placer une virgule qui suffit à faire tomber le masque. Méthodiquement, il mit de l'ordre dans le désordre, effaça la main sanglante étalée sur l'étoffe tendue le long du mur, gratta sur un tiroir la marque qu'avait gravée un coup de talon ferré, mais se garda bien de toucher aux éclaboussures de sang. Plus il y en aurait, plus la lutte semblerait avoir été longue. Rien ne subsista bientôt des traces laissées par les autres. Le crime, dans ce décor arrangé, était le meurtre anonyme où ne subsiste pas le moindre indice, où rien ne peut servir la justice. Il s'agissait maintenant d'en faire le crime d'un individu déterminé, de lui donner une physionomie spéciale, en un mot, d'oublier dans cette chambre un objet qui suffit à servir de base aux recherches. Là encore, là surtout, il importait d'agir avec prudence, de ne pas se livrer à un trucage grossier, facile à éventer. Il fallait que l'objet ait pu être oublié. Coche prit son mouchoir et le jeta au pied du lit, puis se ravisant le ramassa et en vérifia la marque. Dans un coin, un M et un L entrelacés. Il réfléchit. ML, ce n'est pas à moi. Puis sourit, se souvenant que les mouchoirs sont des objets d'échange et que l'on peut presque compter le nombre de ses relations par celui des mouchoirs dépareillés que l'on possède dans son armoire. Sa canne, un jonc à pommes d'argent, cadeau d'un parent revenu du Tonkin, était trop spécial, trop personnel. Il le regarda autour de lui, sur lui. Il ne portait pas de bague. Les boutons de sa chemise étaient de porcelaine imitant la toile, de ces boutons que l'on trouve dans tous les bazars. Il y avait bien ces boutons de manchette, mais il y tenait, non pour leur valeur qui était minime, mais comme on tient à des bibelots portés depuis longtemps et qui deviennent de vieux amis. Et puis on n'oublie pas les boutons de manchette. Il faut une secousse violente pour les arracher. Il se frappa le front. Une secousse, mais parfait. Qu'on ramasse l'un d'eux sur le tapis, et on se dira, au cours de la lutte, la victime, accrochée au bras de l'assassin, a déchiré les poignets de sa chemise, arraché la chaînette du bouton, et dans sa fuite, le meurtrier ne s'est aperçu de rien. Il s'est sauvé sans se douter qu'il laissait derrière lui cette pièce accusatrice. Ainsi, tout est respecté, tout est vraisemblable. Le poignet rabattu, il prit le bord intérieur de la manchette gauche entre ses doigts, saisit le bord extérieur de sa main droite restée libre, et d'un coup sec, fit sauter la chaînette qui tomba à terre avec une petite olive d'or portant en son centre une turquoise. L'autre moitié était restée engagée dans la boutonnière. Il l'a mis dans la poche de son gilet. Mais dans sa hâte à accomplir ce geste, il ne remarqua point qu'il avait du sang aux doigts, qu'il salissait sa chemise et son gilet blanc de taches rouges. De la poche intérieure de son habit, il retira une enveloppe à son nom et la déchira en quatre morceaux inégaux. L'un portait « Monsieur On 22R », l'autre « Ezi UD », la troisième « EV », le quatrième « Coche Douet ». Ce dernier le désignait trop clairement, il le roula en une petite boulette qu'il avala. Avec les dents, il renia les deux premières lettres de son prénom inscrites sur le premier fragment. Il restait trois petites coupures presque incompréhensibles et qui pourtant reconstituaient, complétaient pouvait donner le nom du meurtrier supposé. Ce travail, si difficile qu'il fût, n'était pas impossible en somme. Sans livrer trop d'atouts à ses adversaires, beaux joueurs jusqu'au bout, il leur laissait la partie belle. Il jeta les trois petits papiers au hasard, l'un tomba sur la table, presque exactement au milieu. Les deux autres se collèrent au tapis. Pour être sûr qu'on ne les prendrait pas pour des débris de lettres appartenant à la victime, il ramassa les autres papiers épars, les plaça dans les tiroirs qu'il referma. Après quoi, ayant jeté un dernier coup d'œil circulaire autour de la pièce pour s'assurer qu'il n'oubliait rien, il enfila son pardessus, lissa son chapeau de revers de manche, étendit deux des serviettes de toilette maculées sur la face du mort, dont les yeux à présent vitreux et un peu aplatis n'avaient plus de regard, éteignit l'électricité, sortit de la pièce, traversa le corridor à pas de loup, descendit l'escalier et gagna le jardin. Il eut soin, en traversant l'allée, d'effacer tout à fait les traces de pas déjà brouillées par le vent, étala sur elle le sable jaune et, marchant avec précaution, un de ses pieds seulement portant sur le sable et l'autre sur la terre durcie d'une plate-bande, parvint à la porte, l'ouvrit, la referma et se trouva enfin sur le trottoir. Des ombres immobiles s'étalaient tout le long du chemin. La nuit immense, impénétrable et douce était sans un murmure, sans parfum. Loin, très loin, un chien se mit à hurler à la lune. Soudain, le silence se remplit d'une tristesse infinie. Coche se souvint d'une vieille servante qui jadis lui disait, lorsque les chiens dans la campagne pleuraient ainsi, « Oh, c'est pour prévenir Saint-Pierre que l'âme d'un trépassé va frapper à la porte du paradis. » Magie des souvenirs, éternelle enfance des hommes. Il frissonna en évoquant le temps où, tout petit, il cachait sa tête sous les draps pour ne pas entendre les grandes plaintes inconnues qui, la nuit, traversant les jardins, et retrouva pendant une seconde la douceur du baiser maternel tant de fois posé sur son front. Puis tout se tut. Il consulta sa montre, elle marquait 1 heure du matin. Une dernière fois, il regarda la maison où il venait de vivre des minutes extraordinaires, revint jusqu'à la grille, écarta du bout de sa canne le lierre qui recouvrait le numéro, et lut 29. Il répéta 2 fois 2-9, 2-9. Additionna les chiffres pour avoir un moyen mécanique de les retrouver, redit 9 et 2, 11. Chercha dans sa mémoire si quelques chiffres bien connus ne coïncidaient pas avec celui-là, et se souvenant qu'il était né un 29, sûr de ne pas se tromper et de ne pas oublier, partit. Il arriva à l'extrémité du boulevard sans rencontrer personne. Il marchait du reste sans regarder autour de lui, trop énervé pour penser librement, essayant de classer ses souvenirs. Tout se brouillait, se confondait, à ce point qu'il ne voyait plus d'une façon précise quelle allait être sa ligne de conduite. Son existence devenait double ou tout au moins très différente de ce qu'était une heure auparavant. Une hésitation, une fausse manœuvre pouvait détruire ses projets. Alors, innocent et volontairement suspect, les seules maladresses incoupables lui étaient permises. Non loin du Trocadéro, il croisa un couple qui descendait l'avenue à pas lents. Quand il l'eut dépassé, il tourna la tête et, le regardant s'enfoncer dans la nuit, songea « Voilà des gens qui ne se doute guère qu'un crime a été commis à quelques pas d'ici. En dehors des coupables, je suis le seul à le savoir. » Il ressentit une espèce d'orgueil d'être seul détenteur d'un pareil secret. Combien de temps le conserverait-il? Quand s'apercevrait-on du meurtre? Si la victime, ainsi que tout le laissait supposer, vivait seule et n'avait ni bonne ni femme de ménage, plusieurs jours pouvaient s'écouler avant que l'on remarquât son absence. Un matin, un fournisseur sonnerait à sa porte. Ne recevant pas de réponse, il insisterait, entrerait. Une odeur épouvantable le prendrait à la gorge. Il monterait l'escalier de bois, pénétrerait dans la chambre et là... Ensuite, ce serait la fuite éperdue, les appels « Au secours, à l'assassin !» La police sur pied, toute la presse acharnée à découvrir le coupable. Le public passionné pour la cause célèbre, qui fait en un seul jour monter le tirage des journaux, car le mystère entourant ce crime ne saurait manquer de lui donner une importance inaccoutumée. Pendant tout ce temps-là, lui, Coche, continuerait sa vie, vaquant à ses occupations, promenant son secret de place en place, avec la joie de l'avare qui garde dans sa poche et tâte à chaque pas la clé du coffre où sont enfermées ses valeurs. Jamais l'homme ne possède à un degré aussi élevé la conscience de sa force morale, de sa valeur, que dès l'instant où il détient une parcelle du mystère qui l'entoure. Mais quelle lourde charge aussi qu'un secret! De quel poids il pèse sur les épaules et quelle tentation ne doit-on pas éprouver à tout instant de crier « Vous ignorez tous, mais moi je sais !» Plus d'une fois en plein jour, il traverserait le boulevard Lannes et s'offrirait cette satisfaction, voyant des gens passer devant la maison du crime, de lever les yeux et de se dire « Derrière ces volets clos, il y a un homme assassiné. » Et il songeait encore « Je n'aurais, pour affoler de curiosité tous ces êtres qui vont et viennent autour de moi, qu'à dire un mot. Ce mot, je ne le dirai pas. Je dois m'en remettre au hasard. Il m'a fait sortir de chez mon ami à l'heure qu'il fallait pour que je puisse connaître ces choses-là. Il fixera la seconde précise où tout se découvrira. » Tout en réfléchissant, il arriva devant un café. À travers la glace embuée, il distingua des hommes en train de jouer aux cartes et, assis au comptoir, la caissière assoupie. Un chat, couché en rond auprès du poêle, sommeillait. Un garçon, debout derrière les joueurs, suivait la partie, un autre dans un coin regardait un journal illustré. Le vent piquait très fort. De ce café de petit bourgeois se dégageait une impression de calme tiède. Coche, qui frissonnait un peu de fatigue, d'émotion et de froid, entra et s'assit. Une sensation douce de chaleur le pénétra. Dans l'air où la fumée des pipes avait mis un nuage, une odeur de cuisine, de café et d'absinthe montait, accrue par la chaleur du poêle. Cette odeur que d'habitude il détestait lui parut infiniment douce. Il demanda un café cognac, se frotta les mains, prit distraitement un journal du soir qui traînait sur un coin de table, le reposa brusquement, se leva et dit, sans s'en rendre compte, presque haut, « Sapristi !» Un des joueurs tourna la tête. Le garçon arrêté devant la caisse, croyant qu'on l'appelait, s'appressa. « Voilà, monsieur !» Coche fit signe de la main. « Non, 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 je ne vous appelais pas. Avez-vous le téléphone ici ?»« Parfaitement, monsieur, la porte à droite et au fond du couloir. Merci. » Il se glissa entre deux tables, traversa le couloir, referma la porte sur lui et actionna l'appareil. Il s'énerva parce qu'on tardait à répondre. Enfin, une sonnerie retentit. Il décrocha le récepteur et demanda « Allô ? » Le 115, 92 ou 96. Il écouta les appels de bureau à bureau, les sonneries qui tapaient dans ses oreilles comme des petites baguettes sur un tambour trop tendu. Une voix dit enfin: Allô, qu'est-ce que vous désirez? Il modifia sa voix. Je suis bien au 115-92. Oui, monsieur, vous désirez? Le journal Le Monde. Oui, monsieur. Je désirais parler au secrétaire de la rédaction. Une autre voix passa dans l'appareil, celle de l'employé du central qui demandait un numéro. Allô, allô, fit Coche. Laissez-nous, monsieur, retirez-vous. Je cause. Allô, Le Monde? Oui, je voudrais parler au secrétaire de la rédaction. Ah, ce n'est pas possible, il est à la composition et on ne peut pas le déranger. C'est tout à fait urgent. Je vais voir, alors, mais de la part de qui? Oh diable, pensa Coche, j'avais pas songé à cela, mais il n'hésita pas. De la part du directeur, monsieur Chénard. Oh, c'est différent, monsieur. Je vais prévenir, ne quittez pas. Par le téléphone arrivaient assourdis et mêlés les bruits confus du journal. Un vague ronflement, un froissement de papier, tous les murmures que Coche connaissait bien pour les entendre depuis 10 ans, toutes les nuits, à la même heure, lorsque, son service fini, il s'apprêtait à rentrer se coucher. Monsieur Chénard? Fit le secrétaire de la rédaction un peu essoufflé. Non, 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 monsieur, répondit Coche, changeant toujours sa voix. Pardonnez-moi, je ne suis pas le directeur de votre journal. J'ai pris son nom pour être sûr de vous avoir, car ce que j'ai à vous annoncer est de la plus haute importance et ne souffre aucun retard. Mais qui êtes-vous alors? Quand je vous aurai dit que je m'appelle Dupont ou Durand, cela vous apprendra rien et aura servi qu'à vous faire perdre un temps précieux. Ça suffit comme plaisanterie. Bon Dieu, monsieur! S'écria Coche en tapant du pied. Ne raccrochez pas l'appareil. Je vous apporte une nouvelle sensationnelle, une nouvelle qu'aucun journal ne possédera demain ni après-demain si je ne la lui donne pas. Un mot avant tout. Est-ce que votre journal roule? Pas encore, mais il va rouler dans 10 minutes. Vous voyez donc que je n'ai pas le temps. Il faut que vous ayez celui de faire sauter quelques lignes en dernière heure et les remplacer par celles que je vais vous dicter. Un crime effroyable vient d'être commis au numéro 29 du boulevard Lannes, dans une maison habitée par un vieillard d'une soixantaine d'années. La victime a été frappée d'un coup de couteau qui lui a sectionné la gorge de l'oreille au sternum. Le vol semble avoir été le mobile du crime. Un instant, répétez l'adresse. 29 boulevard Lannes. Je vous remercie, mais qui me dit? Qu'est-ce qui me prouve? Comment pouvez-vous savoir? Je ne peux pas publier une information pareille sans preuve. Le temps matériel me manque pour contrôler. Dites-moi quelque chose qui m'indique à quelle source vous avez puisé ce renseignement. Allô, allô, ne quittez pas. Répondez, monsieur. Eh bien, fit Coche. Admettez, si vous voulez, que je suis l'assassin. Mais laissez-moi vous dire ceci. J'achèterai le premier numéro du Monde qui sortira de vos presses, et si j'y trouve pas l'information que je vous transmets, je la passe au télégraphe, votre concurrent. Hein. Après ça, vous vous arrangerez avec M. Chénard. Faites sauter 6 lignes, croyez-moi, et remplacez-les par les miennes. Encore un mot, monsieur. Depuis quand savez-vous? Coche raccrocha tout doucement le récepteur, quitta la cabine, rentra dans la salle et se mit à boire son café à petite gorgée, en homme satisfait d'avoir mené à bonne fin une affaire. Après quoi, ayant payé avec un billet de banque, le seul qu'il possédât, et qui figurait dans son portefeuille du 1er janvier au 31 décembre pour avoir l'air, il releva le col de son pardessus et sortit. Seulement, sur le pas de la porte, il s'arrêta et se dit à lui-même « Coche, mon ami, tu es un grand journaliste !» Chapitre 3 La dernière matinée d'Onésime Coche, reporter. Pendant plus de 5 minutes, le secrétaire de la rédaction du Monde cria, trépigna, jura « Allô, allô, bon Dieu, répondez! Oh, les brutes, ils nous ont coupés! Allô, allô !» Il raccrocha le récepteur et se mit à sonner avec rage. « Allô, monsieur, vous nous avez coupés !»«
Pas du tout, on a dû remplacer le récepteur.
Alors, il y a erreur, rappelez, je vous en prie !» Au bout d'un instant, une voix qui n'était plus celle de tout à l'heure demanda « Allô, vous demandez ?»
C'est bien d'ici qu'on vient de téléphoner.
On a en effet téléphoné il y a quelques minutes, mais je ne sais pas si c'est à vous. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire avec qui je cause?
Avec le Café Paul, place du Trocadéro.
C'est bien cela. Dites à la personne qui parlait que j'ai un mot à ajouter.
Oh, impossible, monsieur, cette personne vient de partir.
Envoyez un garçon, courez, je vous en prie.
« Pas moyen, monsieur, nous fermons, et ce monsieur doit être loin maintenant. »«
Pourriez-vous me dire comment était ce monsieur? Le connaissez-vous? Est-ce un habitué de votre café ?»«
Non, je le voyais pour la première fois. Pour ce qui est de vous le défendre, c'est un monsieur d'une 30aine d'années, brun, avec de petites moustaches. » Je crois bien qu'il était en habit de soirée, mais je n'ai pas fait grande attention. »
Merci, pardon de vous avoir dérangé. Oh, il n'y a pas de quoi. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Le secrétaire de la rédaction demeura perplexe. Devait-il publier la nouvelle qu'on lui avait donnée ou valait-il mieux attendre au lendemain? Si l'information était exacte, il serait désolant d'en laisser profiter un autre journal. Mais si elle était fausse... Il fallait prendre sur la seconde une grande résolution. Ayant bien réfléchi, il esquissa un geste vague, supprima quelques lignes qui donnaient le texte des dernières injures déversées par les partis d'opposition à la diète croate, et les remplaça par les suivantes. Horrible tragédie. Nous apprenons qu'un crime vient d'être découvert au numéro 29 du boulevard Lannes, dans une maison habitée par un vieillard. La victime a été littéralement égorgée par les meurtriers. Un de nos collaborateurs se rend sur les lieux. Information de dernière heure, sous toute réserve. Quelques instants plus tard, les machines roulaient à toute vitesse et à 3 heures du matin, 300 000 exemplaires partaient pour les diverses gares en portant la nouvelle du crime du boulevard Lannes. À 5 heures moins le quart, la moitié de l'édition de Paris était faite. À ce moment-là, le secrétaire de la rédaction, qui n'avait pas quitté le journal, regarda sa montre et fit appeler un garçon.
« Allez chez Monsieur Onésime Coche, rue de Douai, et dites-lui de venir me parler immédiatement pour une affaire tout à fait urgente. »
De cette façon, pensa-t-il, cet incorrigible Coche ne pourra pas colporter la nouvelle. Si elle est erronée, la mention « sous toute réserve » me met à l'abri de tout reproche. Et si elle est vraie, aucun confrère n'en profitera. Oh, si Coche était sérieux, je l'aurais fait prévenir sur l'heure, mais fiez-vous donc à un garçon qui, de la meilleure foi du monde et avec les plus louables intentions, aurait mis tout Paris au courant de l'affaire. Un être charmant mais irrégulier, sautillant, et qui trouve moyen de ne pas venir au journal juste cette nuit. Il suffit qu'on ait besoin de lui pour ne pas l'avoir sous la main, enfin. Puis satisfait d'avoir habilement solutionné la question, il alluma une pipe et se frotta les mains en murmurant « Mon ami, tu es un secrétaire de rédaction épatant. Onésime Coche venait de s'endormir, quand le garçon du Monde sonna à sa porte. Il s'éveilla en sursaut, prêta l'oreille, n'étant pas sûr d'en avoir pas rêvé, mais au second coup de sonnette, il se mit sur son séant et demanda « Qui est là ?»« Jules, le garçon du monde. Un moment, j'arrive. » Il alluma sa bougie, enfila son pantalon et ouvrit la porte d'assez mauvaise humeur. « Qu'est-ce qu'il y a de cassé? Qu'est-ce qu'on me veut ?»« Ben, monsieur Aviot vous fait dire venir tout de suite. » « Ah, ah, non, mais il rigole, monsieur Aviot. Il n'est pas 5 heures du matin. »« Pardon, monsieur, il est 5h20. »« 5h20, c'est pas 1 heure pour faire sortir les gens de leur lit. »« Vous lui direz que vous ne m'avez pas trouvé. Bonsoir, Jules. » Et il pousse à la porte. « Moi, je veux bien, » fit le garçon. « Seulement, je crois que c'est urgent tout de même en rapport à ça. »« Quoi, ça ?» Jules sortit de sa poche un journal encore humide où l'encre trop fraîche s'étalait sous le doigt. Il le déplia à la 3e page et désigna tout en bas de la dernière heure l'information ayant trait au crime du boulevard Lannes. Tandis que Coche parcourait les lignes, il ajouta « c'est venu par téléphone au moment où nous allions rouler. Si c'est pas une blague, le rigolo qui a fait ça a gagné 25 francs dans sa nuit. » 25 francs. Vous pensez bien qu'il n'a pas téléphoné ça qu'à nous. Il a fait son boniment à tous les journaux du matin, et tout à l'heure il passera à la caisse et se fera reconnaître pour palper. Moi, je l'ai fait pour l'incendie du bazar de la Charité. Je me trouvais devant, seulement c'était pour les journaux du soir, et il y en a juste deux qui payent. Parfaitement, parfaitement, dit Coche en lui rendant son journal. Vous êtes un malin, Jules. Mais il pensait imbécile. Puis il ajouta, « Oui, c'est probablement ça. Bon, dites à M. Amiot que je viens. Le temps de m'habiller. » Resté seul, Coche se mit à rire. N'était-ce pas drôle, en effet, qu'on vint lui annoncer à lui cette nouvelle? Sur le premier moment, il avait éprouvé une surprise réelle. 2 ou 3 heures de sommeil lourd lui avaient fait oublier les émotions de la nuit. Il s'était demandé pendant un instant pourquoi on l'appelait et n'avait compris que lorsque Jules avait déplié le journal. Ah, décidément, les choses allaient pour le mieux. Il avait craint qu'un autre ne fût mis sur cette affaire, ce qui eût un peu paralysé son action. Maintenant, il allait pouvoir jouer la partie à sa façon. Tout en réfléchissant, il s'habillait. Comme il faisait froid dans la chambre sans feu, il prit une chemise de flanelle, des vêtements épais et un gros pardessus d'automobile. Le chapeau sur la tête, il tâta ses poches, sentit ses clés, son portefeuille, son bloc-notes et son stylographe. Il n'oubliait rien. En passant devant la loge du concierge, il demanda le cordon et entendit une voix ensommeillée qui grognait derrière la vitre. « Ça va bientôt finir cette nuit !» Un cocher maraudait, il le héla, donna l'adresse du monde et de nouveau se prit à réfléchir. La seule attitude possible était pour le journal celle de l'ignorance absolue. Un peu de mauvaise volonté même ne serait pas inutile. Une incrédulité à peine dissimulée ne messierait point. De la sorte, il ôtait par avance tout soupçon et laissait au secrétaire de la rédaction l'orgueil d'avoir vu juste. Il connaissait trop bien les hommes en général et les journalistes en particulier pour négliger cette vérité que pour arriver à ses fins, il faut leur laisser une part de succès dans toute entreprise. C'est un courtage comme un autre. Aviot l'intéressait d'autant plus à l'affaire qu'il pourrait dire à tout le monde « Oh, j'ai eu du flair, hein, personne voulait me suivre. Coche prétendait que je m'étais laissé mettre dedans, mais j'ai tenu bon. Je sentais que c'était pas un canard. On ne me l'a fait pas, je suis un vieux routier. » La voiture s'était arrêtée. Il paya le cocher et monta rapidement à la rédaction. Le secrétaire l'attendait, marchant de long en large dans son bureau. Dès qu'il l'aperçut, il s'écria « Ah, vous voilà enfin! On vous cherche depuis 1 heure du matin. Je ne sais pas où vous passez vos nuits. Cela vous regarde d'ailleurs. Mais franchement, vous pourriez bien monter au journal. On ne sait jamais où vous trouvez. Chez moi, dit Coche le plus naturellement du monde. J'ai dîné en ville et à 1 heure du matin, j'étais dans mon lit. J'ai quitté le journal à 7h30 du soir. Tout était calme. Que s'était-il donc passé depuis qu'il ait nécessité ma présence? Ceci, à 2h du matin environ, j'ai été avisé qu'un crime venait d'être commis boulevard Lannes. Fort bien, je saute en taxi à Tôt et je cours au commissariat de police du quartier. Le secrétaire lui mit la main sur l'épaule. Un moment, on y serait fort en peine de vous donner le moindre renseignement, pour l'excellente raison qu'on ignore ce dont il s'agit. Je ne saisis pas bien, fit Coche. On n'a pas connaissance du crime au commissariat? Et vous en êtes informé, vous? Mais comment? Voyez, dit Aviot en lui tendant le journal. Coche parcourut pour la seconde fois son information de dernière heure et parut la lire avec la plus grande attention. « Diable !» murmura-t-il quand il eut fini. « Voilà qui me semble louche. Êtes-vous bien sûr de n'avoir pas été mystifié ?»« Si j'en étais absolument sûr, répliqua le secrétaire, je n'aurais pas mis la mention sous toute réserve. » Cependant, et son air devint mystérieux, j'ai de bonnes, d'excellentes raisons de croire. Serait-il indiscret de vous demander ces raisons? Indiscret, non, mais inutile tout au moins. Au demeurant, la situation assez simple peut se résumer en quelques mots. Vérifiez tout d'abord l'information. Ensuite, étant les premiers et les seuls à l'avoir, profitez de nos 24 heures d'avance sur les autres journaux pour pousser notre enquête parallèlement à celle de la police. Je pense que mon correspondant ne s'en tiendra pas à sa communication de cette nuit et que je le verrai sous peu, ne serait-ce que pour toucher quelque argent. « Croyez-vous ?» dit Coche. « Oh, je le crois, » affirma le secrétaire. « Peu, » murmura Coche. « Mon cher, vous m'accorderez une certaine expérience dans un métier que j'ai fait pendant 20 ans. »« Âme naïve, » songea Coche, « si tu le connaissais, ce correspondant, comme tu serais étonné. »« Orgueilleux maladroit, t'avais pas le ton si tranchant cette nuit quand tu me suppliais. »« Mais non, il viendra pas frapper à la caisse ton informateur. »« Le louis que tu lui donnerais ne suffit pas à son ambition. » Ton expérience est bien petite près de sa ruse. Et tout haut, il ajouta, « Oh, certes, oui, bon, il n'en est pas moins vrai que tout cela est bien bizarre et que je me demande par quel bout il faut commencer. C'est votre affaire. Assurez-vous d'abord de la véracité du fait, ensuite débrouillez-vous de façon à me donner 400 lignes avec photographie pour ce soir. » Si vous vous en tirez bien, je demanderai pour vous au patron une augmentation de 50 francs par mois. Oh, je vous suis tout à fait obligé, fit le reporter. Et à part lui, il pensa, si je m'en tire bien, ce que moi j'appelle bien m'en tirer, ce n'est pas de 50 francs qu'il sera question, mon bonhomme. Le journal qui voudra Onésime Coche y mettra le prix. Nous traiterons en grand à l'américaine. Dehors, le soleil se salissait de traînées pâles. Le jour, prêt à venir, mêlait ses reflets blancs à la lueur de la lampe. Les machines arrêtées, l'on n'entendait plus à la place de leur ronflement cadencé que les murmures vagues, les bruits multiples et confus de la rue, coupés de temps en temps par l'appel sonore d'une trompe d'automobile. Un omnibus passa avec un grand fracas de roues et de vitres secouées. Onésimoche se leva, prit un numéro du Monde et le mit dans sa poche. Vous dites boulevard Lannes, numéro 29, Ah, ne commencez pas à avoir la tête ailleurs, c'est pas le moment. Oh, proteste Coche, soyez tranquille. Il est 7 heures, je me mets en campagne. Et moi, je vais me coucher, j'ai bien gagné quelques heures de sommeil, je travaillais, moi, pendant que vous dormiez. Coche détourna la tête pour ne pas laisser deviner le sourire qui plissait sa bouche et la petite flamme qui passait dans ses yeux, puis sortit. Dans l'escalier, il croisa le garçon qui lui demanda « C'était bien pour ce que je vous ai montré. Mmh, »« Exactement. » Il prit une voiture et dit au cocher « Avenue Henri Martin, au coin du boulevard Lannes. » Une espèce de pudeur, un scrupule inexplicable, l'empêcha de donner l'adresse exacte. Sans s'en rendre compte, il agissait comme un coupable, n'osant pas faire arrêter sa voiture devant la maison. Quoi de plus naturel pourtant ? Il partait avec un mandat déterminé, au su et au vu de tout le monde. Mais il s'imagina qu'à l'énoncé de cette adresse, 29 boulevard Lannes, le cocher le regarderait de côté. Sur les trottoirs, le long des devantures fermées, des gens passaient très vite. Il songea que cette nuit, qui s'en allait ainsi, laissant flotter autour de toute chose une buée triste et très froide, était étrangement longue. Afin de mieux réfléchir, il se cala dans un coin, ferma les yeux et remua 1000 pensées, mêlant à ses projets la vision de la chambre du crime et celle du café où il avait pris sa résolution définitive. Le petit jour dont il gardait derrière ses paupières closes le reflet triste évoquait dans son esprit l'aube lugubre des matins d'exécution, et dans ce chaos de pensées, se chevauchant et se mêlant, passait dans un va-et-vient monotone les faces des deux rôdeurs et de la femme, le visage exsangue de l'assassiné et surtout la main sanglante aux doigts énormes dont il avait lavé la trace sur le mur. Il faisait grand jour quand la voiture s'arrêta. Onésime Coche descendit le boulevard Lannes à pas lents. Une à une, les maisons s'éveillaient. Entre les volets brusquement ouverts et qui tapaient les murs, des formes apparaissaient, des visages encore lourds de sommeil. Sur la chaussée, très peu de monde. Une voiture d'épicier stationnait devant une porte. Un garçon boucher, son panier sous le bras, marchait en sifflotant. Un facteur sonnait à la grille d'un petit hôtel. Coche regarda le numéro de la maison et lut 17. Le boulevard était si différent le jour de ce qu'il était la nuit qu'il était arrivé tout près de la maison du crime sans s'en apercevoir. La journée s'annonçait froide mais très belle. Derrière de petits nuages, le soleil montait doucement à l'horizon et mettait sur le sol très blanc, le long des murs chargés de lierre, sur les maisons aux toits pointus, une lumière jeune de printemps. Il ne restait plus rien des ombres de la nuit, et pendant une seconde, tant le contraste était violent entre les deux aspects de cette rue, Coche se demanda s'il n'avait pas rêvé, si tout cela n'était pas un cauchemar. Il était plus de 8 heures. Depuis longtemps, bien des gens avaient acheté le monde et personne ne semblait soupçonner le drame. Un gendarme qui remontait vers l'avenue lisait précisément le journal à la page où figurait la nouvelle. Coche pensa « Ou bien j'ai rêvé toute cette histoire, ou bien il va voir et alors il s'arrêtera. » Mais le gendarme passa son chemin. « Voyons, voyons, murmura Coche, je ne suis pas fou, je ne divague pas. Ce qui existe dans ma pensée a bien existé réellement. J'ai bien longé ce trottoir cette nuit, je suis bien entré dans ce jardin, j'ai bien vu un homme égorgé sur son lit, j'ai, Il appuya sa main sur son front et ressentit près de la tempe une douleur assez vive. Il regarda sa main, un peu de sang rougissait le bout de ses doigts. Alors, ce qui semblait obscur et confus se précisa. Il se souvint de la chute qu'il avait faite en entrant, de la blessure qu'il portait au front, et comme il levait les yeux, il vit qu'il était arrivé devant le 29. Tout était clos et silencieux. Dans le sable jaune, la trace de ses pas subsistait, plus nette encore sur le bord de la plate-bande, où son pied foulant le gazon avait effacé la gelée blanche, retombée depuis très légère sur la place où avait posé sa semelle. Il n'avait pas songé à ce détail, s'en réjouit comme d'une aide que lui aurait apporté le hasard, et se mit à faire les 100 pas devant la maison. Des gens allaient et venaient sur la route. Un ouvrier le regarda fixement, ou du moins il le crut ainsi. Il était inutile de prolonger cette station qui risquait d'attirer l'attention sur lui. Sait-on jamais comment un individu vous remarque et dans la suite vous reconnaît? N'était-il pas plus piquant d'aller, lui, simple journaliste, trouver le commissaire de police et de lui mettre le journal sous les yeux? Dans le même moment, deux fiacres arrivèrent et s'arrêtèrent à quelques pas de lui. Il a envie descendre plusieurs hommes, parmi lesquels il reconnut le commissaire de police. 4 agents cyclistes suivaient. Ils rangèrent leurs machines le long du petit mur, exactement à la place où, quelques heures plus tôt, il avait écarté le lierre pour lire le numéro. Le commissaire hésita une seconde devant la porte, tira la sonnette et attendit. Alors Coche, qu'il regardait depuis une seconde, s'avança et dit avec son plus aimable sourire « Je ne pense pas qu'on vous ouvre, monsieur. La maison est vide, ou tout au moins vide de gens capables d'entendre votre appel. »« Qui êtes-vous, monsieur ? Je ne vous demande rien, veuillez me laisser, je vous prie. »« En effet, » poursuivit Coche en s'inclinant, « j'aurais dû me présenter moi-même tout d'abord. » Veuillez excuser cet oubli. Onésime Coche du Monde. Voici ma carte, mon coupe-fil. Oh, c'est différent, répliqua le commissaire en lui rendant son salut. Et je suis enchanté de vous rencontrer. Votre journal publie dans sa dernière heure une nouvelle qui m'a grandement surpris, mais je crains qu'il ait accepté cette information bien à la légère. Croyez-vous, monsieur? Oh, nous nous entourons toujours de toutes les précautions nécessaires. Si le Monde a publié l'information dont il s'agit, cette information doit être vraie. Nous tirons à 800 000, nous ne sommes pas un journal à canard ou à scandale. Je sais, répondit le commissaire, mais pourtant, je me demande quelle enquête vous avez pu faire étant donné l'heure supposée de ce crime supposé. Étant donné surtout que je m'en étais pas averti moi-même. La presse dispose de moyens d'investigation multiples. Murmura le commissaire incrédule, et il sonna une seconde fois. Au demeurant, poursuivit Coche, ne trouvez-vous pas surprenant que personne ne réponde? Pas le moins du monde, il peut n'y avoir là qu'une simple coïncidence. Si cet hôtel n'est pas habité... Oui, mais il est habité. Comment le savez-vous? Vous me permettrez, monsieur le commissaire, de me retrancher ici derrière le secret professionnel. Je serai enchanté de vous aider dans vos recherches, mais ne m'en demandez pas plus que je ne puis vous en dire. Peut-être à ce point précis, dans vos propos, avez-vous donc des certitudes? Quelque chose comme cela. Notre informateur était certainement très bien renseigné. Son nom? Ah, voyons, monsieur le commissaire, vous me demandez de brûler un de mes hommes. Vous ne le feriez pas pour l'un des vôtres. Le commissaire regarda Koch droit dans les yeux. « Et si cependant je vous obligeais à parler ?»«
À moins de me mettre la question, et encore, je ne vois pas par quel moyen vous pourriez me contraindre à dire ce que je veux taire. Mais je tiens trop à rester en termes excellents avec vous. Pour envenimer cet entretien, je préfère vous dire que j'ignore tout de mon correspondant. Son nom, son âge, son sexe, tout, tout. Sauf l'accent de sincérité de sa voix, la précision de son information, l'autorité de sa parole. Je vous le répète, monsieur, dès l'instant que le commissaire de police ignorait tout, seul l'assassin ou sa victime pouvait parler. Or, la victime, d'après vous, serait morte. Ce serait donc l'assassin qui... Hein, vous ai-je dit que cela n'était pas ma pensée? Ha, de mieux en mieux. Voilà, sur ma foi, l'assassin le plus fantaisiste qu'on ait jamais connu. Au cours de ma carrière, déjà longue, j'ai rencontré des coupables extraordinaires, mais pareil à celui-là, jamais. Ma foi, s'il est de vos amis, monsieur Koch, montrez-le-moi. C'est que, murmura Koch avec son éternel sourire, il ne partage sans doute pas votre désir. Il ne signifie du reste pas pour moi le coupable, mais mon informateur. Si je savais d'une façon certaine que ce fut lui le meurtrier, mon respect des lois me commanderait de ne rien vous cacher, mais j'inclinerais plutôt à croire que nous sommes en présence d'un policier amateur, d'une rare perspicacité du reste, un de ces détectives qui travaillent pour le plaisir, pour la gloire. À ce moment, un agent s'approcha du commissaire. « Il n'y a pas d'entrée de l'autre côté, la maison est adossée à un immeuble habité, et la seule porte est celle où nous sommes. »« Alors allons-y, » fit le commissaire. « Le serrurier est là. D'ailleurs, c'est pas la peine, la porte s'ouvre toute seule. »« Voyez-vous un inconvénient, est-ce que je vous accompagne ?» demanda Koch. Inconvénient n'est peut-être pas le mot. Vous comprendrez que je préfère, pour les premières constatations, s'il y a lieu d'en faire, être seul. Si légitime que soit le désir du public d'être renseigné, celui de la justice de ne pas être entravé dans son action m'apparaît plus légitime encore. Koch s'inclina. Au reste, poursuivit le commissaire, je ne pense pas, agissant ainsi, faire tort à votre journal. Votre informateur, si bien renseigné, en sait sans doute aussi long que j'en serai moi-même en quittant cette maison. Et si d'aventure j'estimais dans l'intérêt de l'instruction devoir vous faire quelques détails, il vous les fournirait aisément. Koch mordit les lèvres et songea. « T'es à tort de jouer l'ironie avec moi. » Nous causerons de tout cela plus tard. Une chose entre toutes lui était insupportable, n'être pas pris au sérieux. Et quoiqu'il fût certain, et pour cause, d'avoir la seconde manche, il s'irrita d'entendre qu'on lui parlait sur un ton persifleur. Il regarda le commissaire, son secrétaire et un inspecteur entrer dans la maison, haussa les épaules et resta en faction devant la porte afin d'être bien sûr que si lui n'entrait pas, du moins aucun confrère n'entrerait. Attiré par la présence des agents, par les allées et venues insolites des gens qui s'étaient arrêtés, des groupes se formaient où l'on se demandait ce qui pouvait bien être arrivé. Un homme expliqua la chose à sa façon. C'était une affaire politique, une perquisition. Un autre, qui avait parcouru le monde, rétablit les faits. Un meurtre avait été commis. Il donnait des détails, précisément l'heure, laissant entrevoir les causes ténébreuses de ce drame. Déjà, on reprochait à la police sa lenteur. Est-ce qu'au lieu d'immobiliser des agents dans le moment du crime, on ferait pas mieux de les lancer dans toutes les directions, de fouiller les bouges? Du reste, quoi d'étonnant à ce qu'un crime
fut perpétré avec une pareille audace. Jamais de sergent de ville aux endroits dangereux. Les rues, passées minuit, des coupes-gorges. Et pour ne pas être protégé, on payait des impôts plus lourds chaque année. Les agents impassibles prêtaient une oreille distraite à ses discours. Coche, sur le premier moment, s'en était amusé. Bientôt, il n'écouta plus. Une curiosité impatiente le tenaillait. Par la pensée, à travers les murs, il suivait le commissaire. Il le devinait, entrant dans le corridor, gravissant l'escalier, hésitant sur le palier du premier étage entre deux ou trois portes, à moins pourtant que des traces de sang qu'il n'aurait pas vues dans la nuit ne lui indiquassent le chemin. Il eut même une seconde émotion véritable. Si les assassins avaient marqué leur passage dans l'escalier, toute sa mise en scène devenait inutile. Mais cette crainte l'abandonna vite. S'il en avait été ainsi, le commissaire serait déjà entré dans la chambre. On aurait entendu un bruit de voix. Non, là-haut, dans l'obscurité des pièces au rideau tiré, on avançait à tâtons. La fenêtre du couloir donnant sur le boulevard était protégée par un store épais. Il l'avait tiré lui-même afin de n'être pas dérangé cette nuit. Par-dessus tout cela, il retrouvait en lui l'odeur fade de cette chambre inondée de sang, le relent aigre des verres à demi remplis de vin rouge. Il revoyait le grand trou noir de la glace crevée, le corps effroyable, aux yeux immenses étendus en travers du lit. Jamais il n'avait connu de minute aussi violente, jamais il n'avait pensé aussi vite. Il regardait les quatre fenêtres et se demandait « Laquelle est celle de la chambre à coucher? Laquelle s'ouvrira la première ?» Tout à coup, un remous se fit dans la foule assez considérable maintenant, suivi d'un grand silence au milieu duquel on entendit des volets claquer sur le mur. Entre les deux montants de la fenêtre ouverte, une tête apparut, puis disparut derrière les vitres refermées. Coche regarda sa montre. Il était 9h03. À cet instant précis, la justice savait une partie de ce que lui savait depuis la nuit. Il avait exactement 8 heures d'avance sur elle. Il s'agissait de ne pas les perdre, mais avant tout, il importait de connaître l'impression première du commissaire. Cette première impression, qui généralement est la mauvaise, influe considérablement sur la marche de l'instruction. Le mauvais policier part en aveugle sur la première piste venue, cherchant surtout à faire vite. Le vrai limier, lui, sans se départir jamais de son calme, avance lentement, certain que le temps n'est jamais perdu quand il a été employé d'une façon judicieuse, et que la déduction la plus logique a moins de valeur que l'indice infiniment petit qu'on découvre toujours lorsqu'on sait regarder. Les curieux étaient venus en si grand nombre qu'on a vu établir un service d'ordre. On avait dégagé les abords de la maison, et dans un demi-cercle vide, Coche et quelques journalistes arrivés en hâte causaient avec animation. Le représentant d'un journal du soir, un méridional ardent et parlant fort, s'irritait de ne rien savoir de précis. Il lui fallait absolument un papier pour midi et il était près de 10 heures. Coche, dont le journal avait le premier et le seul annoncé la nouvelle, était assailli de questions. Mais sa loquacité habituelle avait fait place à une réserve obstinée. Il n'était au courant de rien. Il attendait, comme les autres. S'il avait eu la moindre indication, il se ferait un plaisir de la passer aux confrères. Ne fait-on pas ainsi journellement entre reporters, et n'est-ce pas le meilleur moyen de donner des renseignements nombreux et sûrs? Chacun glane ce qu'il peut. Bien qu'envoyé spécial d'une feuille, On se partage la besogne. Et la dépêche qu'on expédie n'est que le résumé plus ou moins adroit de ce que chacun sait. Tout le monde y gagne, en somme, car on ne peut exiger d'un homme qu'il se trouve en 10 endroits à la fois. Pour faire information tout seul, il faudrait disposer de sommes parfois considérables, de moyens de transport coûteux ou impossibles à se procurer. Tandis qu'à 3 ou 4 qui s'entendent, on met les frais et renseignements en commun. Enfin, pour donner à son papier une note personnelle, pour avoir l'air d'avoir dit quelque chose, on invente, on brode. Une rectification se produit-elle? On l'insère parce que la loi l'ordonne, mais en ayant bien soin de la faire suivre d'une courte note où l'on affirme, après avoir souligné le respect qu'on a du droit des individus, qu'on maintient formellement les termes de l'information produite la veille. Et Coche, se défendant de rien savoir, insistait sur ce point, évoquant 10, 20 circonstances dans lesquelles, bon confrère, il n'avait jamais gardé par devers lui les renseignements qu'il tenait du hasard ou de son habileté. Le journaliste du midi approuvait ses paroles, tout en trépignant d'impatience. Les autres avaient le temps d'être calmes, parbleu. Il leur restait l'après-midi et la soirée pour aller aux nouvelles. Lui était pris de court. Il ne comprenait pas qu'en ce moment le commissaire pût avoir une préoccupation plus grave que celle-ci. Le temps passait et personne ne sortait toujours pas de la maison. Un des reporters émit l'avis qu'il faisait soif et qu'on pourrait bien tout aussi bien attendre dans un café. Mais dans ce sale quartier, où en trouver un? À 5 minutes d'ici, fit un curieux. Au bout du boulevard, prenez l'avenue Henri Martin, il y en a un place du Trocadéro. Parfait, fit le méridional. Vous venez, Coche? Oh, moi je ne peux pas tout de suite, du moins, mais allez-y, vous. Si j'ai quelque chose, je vous préviendrai. Entendu, vous venez les autres. Coche regarda ses confrères partir et se retrouva seul. Il ne lui déplaisait pas de les voir s'éloigner. Depuis qu'ils étaient là, il sentait tout le poids de son secret. 20 fois, il avait été sur le point de laisser échapper un mot, une phrase. Il avait dû faire un effort très grand sur lui-même pour ne rien dire aux confrères du midi, sachant que le pauvre diable comptait peut-être sur son papier du soir à 4 centimes la ligne pour donner un acompte à son restaurateur. Mais quoi? Par une vaine pitié, pour une sensibilité grisette, allait-il tout gâter, déflorer son information, risquer de perdre une partie si bien engagée? Plus tard, il le dédommagerait. Pour l'instant, cette affaire était son affaire. La bonne camaraderie ne lui avait pas si bien réussi qu'il lui sacrifia une pareille chance de succès. Petit à petit, il sentait l'énervement de l'attente l'envahir. Il était partagé entre la joie secrète de savoir la police en train de patauger et la curiosité de connaître les détails de cette constatation. Entre-temps, il écoutait les bavardages de la foule, essayant d'attraper un mot qui le renseignât sur l'identité de la victime, ses habitudes, sa façon de vivre. Car il se trouvait dans cette situation bizarre de connaître mieux que personne une partie de la vérité, la partie passionnante, terrible, mais d'ignorer de la façon la plus absolue cette chose que n'importe qui pouvait savoir, le nom de l'assassiné. Des bribes de phrases qu'il entendait, il ressentait que personne n'était plus avancé que lui. Des voisins racontaient que le vieillard sortait rarement, juste pour faire ses provisions, que parfois l'été, à la nuit close, il se promenait un peu dans son jardin, mais qui ne recevait jamais personne, faisant lui-même son ménage, menant une existence calme et mystérieuse, dont on avait cherché souvent, mais en vain, à découvrir le secret. Vers midi, le commissaire, accompagné de son secrétaire et de l'inspecteur, sortit. Les trois hommes s'arrêtèrent dans le jardin, levèrent les yeux vers les fenêtres. Ils s'approchèrent du mur, tout en parlant avec animation, puis se dirigèrent vers la grille. Au moment où ils allaient la franchir, Koch fit un pas. « Eh bien, monsieur le commissaire, votre information était exacte. Maintenant que vos premières constatations sont faites, serait-il possible d'entrer, ne fût-ce qu'un moment ?»« Oh, ce serait tout à fait dénué d'intérêt, je vous assure. Je ne demande pas mieux que de faciliter votre tâche. Si vous voulez m'accompagner jusqu'à mon bureau, en route, je vous raconterai ce que j'ai vu, ce que je peux vous dire. » J'ajoute que mon opinion est faite et que les choses iront, je pense, rondement. Ah, vous avez découvert des indices, relevé des traces. Oh, monsieur Koch, ne m'en demandez pas trop. Et vous, pendant tout ce temps, qu'avez-vous fait? J'ai réfléchi, j'ai écouté, j'ai regardé, et c'est tout. « À peu près. Vous voyez que si je ne disais rien, vous seriez fort en peine pour faire votre article de demain. Mais rassurez-vous, je vous en confierai plus qu'il n'en faut pour remplir deux colonnes. Eh bien, monsieur le commissaire, je ne veux pas être de reste avec vous. Au cours des 3 heures que j'ai passées ici, j'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, réfléchis, écoutez et regardez. La réflexion, je l'avoue, ne m'a pas conduit à grand-chose. En écoutant, je n'ai pas recueilli de renseignements précieux. Mais en regardant, oh, en regardant, vous n'imaginez pas quelle acuité prend le sens de la vue quand il travaille seul. Ce qui nous gêne la plupart du temps, ce qui paralyse l'effort de nos sens, c'est la distraction de l'un par l'autre. Il m'a toujours semblé, sinon impossible, du moins très difficile, de percevoir nettement, en tirant un coup de fusil, le bruit de la détonation, le nuage de fumée, l'odeur de la poudre et la secousse de l'épaule. Mais si je parvenais à fixer un seul de mes sens, celui de l'ouïe par exemple, j'analyserai la détonation d'une façon parfaite. Dans ce bruit, simple en apparence et violent, je démêlerai presque les 1000 déflagrations des 1000 grains de poteau, le frisson que le plomb filant à toute vitesse fait passer dans les feuilles, et j'entendrai l'écho à la seconde où il s'éveillerait dans les bois. Oh, tout à l'heure, certain que je n'entendrai rien, que pas un murmure ne viendrait du dehors jusqu'à moi, que les conversations des badauds n'avaient pas plus d'importance que des bavardages de commères. Fatigué de chercher à déchiffrer un mystère dont la clé était sans doute entre vos mains, j'ai regardé. Le commissaire, qui depuis un instant écoutait distraitement, ouvrit la bouche et commença « Mais !» Koch ne le laissa pas formuler sa phrase et, très naturellement, poursuivit. « J'ai regardé, oh, regardé passionnément, furieusement, comme doit regarder un être qui n'a plus que le sens de la vue pour le guider. Regardé comme regarde un sourd, comme écoute un aveugle. Toute mon intelligence, toute ma volonté de comprendre a passé dans mes yeux. Et mes yeux, travaillant seuls, sans le secours de mes autres sens, mes yeux ont vu une chose à laquelle vous n'avez pas, je crois, prêté la moindre attention. Une chose qui peut être sans intérêt, comme elle peut être d'une importance capitale. Une chose
qu'il faut voir aujourd'hui qu'elle aura sans doute disparu demain, ce soir ou dans une heure.
Et cette chose?
Si vous voulez bien, vous retournez, vous la distinguerez, mais pas aussi bien que moi, car elle s'est effacée depuis une heure, mais assez cependant pour que vous regrettiez, j'en suis certain, de n'y avoir pas fait attention plus tôt. Cette chose, c'est l'empreinte d'un pied marqué sur la terre. C'est cette petite tache qui se dessine dans le gazon, un peu plus sombre au milieu de la gelée blanche. Le soleil l'a quelque peu abîmée. Tout à l'heure, elle était d'une netteté remarquable.
Rentrons, fit vivement le commissaire. Coche, cette fois, le suivit. Quand il posa son pied sur le sable de l'allée, il éprouva une sensation indéfinissable d'orgueil et de peur. Machinalement, il regarda l'empreinte et ses pieds. La trace allongée et étroite ne ressemblait guère à celle que ses gros souliers américains venaient de faire sur le sol. Il avait à adopter pour le travail les chaussures à bout arrondi et à semelles débordantes, mais ne portait le soir que des souliers très fins, étant fier de son pied cambré et délicat. Penché sur le gazon, le commissaire examinait cette empreinte. Le soleil, maintenant haut dans le ciel, avait crevé les nuages gris. De petits rayons de lumière doraient par places la couche mince de givre. L'un d'eux tomba directement sur l'empreinte.
Un centimètre, un crayon, vite, fit le commissaire, en tendant la main sans se retourner. Un crayon, voilà, fit le secrétaire, mais j'ai pas de centimètre. Concours m'en chercher un. Monsieur Coche, vous avez un appareil photographique? Seriez-vous assez aimable pour me prendre un cliché de cette empreinte?
Volontiers, mais la photographie ne vous donnera qu'une image, une simple image très petite, à laquelle manqueront les rapports avec les points de repère que vous pourriez établir sur le sol. Les clichés d'objets posés à terre sont très imparfaits. Pour relever la position d'un corps, il faut des appareils spéciaux, très compliqués. Au reste, nous sommes arrivés bien tard. Le soleil fait fondre tout cela. Mon empreinte, il eut une hésitation imperceptible en prononçant ces deux mots, mon empreinte, et rectifia très vite, l'empreinte que j'avais remarquée devient de plus en plus vague, ses bruits s'estompent, disparaissent. Dans une minute, il n'en restera rien. Voyez, on ne distingue presque plus le talon. La semelle, à son tour, commence à fondre. Elle diminue. Ah, c'est fini. Quel dommage que vous ne soyez pas sorti quelques instants plus tôt. Tout au fond de lui, il éprouva un soulagement réel et très grand. Pendant quelques minutes, il lui avait semblé, pure imagination du reste, que les trois hommes l'avaient dévisagé à la robée, comme si sous ses gros souliers, ils avaient deviné le pied fin et petit, capable de laisser dans la gelée blanche du matin l'empreinte que le soleil avait fait disparaître en un instant. Son but, pourtant, était bien de se faire soupçonner, arrêter même, mais plus ce but devenait proche, plus il s'efforçait, malgré lui, de l'éloigner. La justice lui apparaissait comme une force redoutable, comme une bête aux 100 bras qui ne rompt pas volontiers sa proie. Puis il sentait qu'il avait tout à gagner à rester maître de l'heure, à pouvoir choisir l'instant précis où il lui plairait de se laisser prendre. Pour bien connaître et bien juger tous les rouages de la police, il voulait en pouvoir suivre le jeu, en commander presque la marche, la ralentir ou l'accélérer à sa guise. Aussi, lorsque le commissaire, pour ne pas laisser deviner son dépit, murmura
Après tout, peut-être, cette empreinte parvenait-elle de l'un de nous. Mon secrétaire, qui était à ma gauche, peut fort bien avoir posé le pied sur le gazon. Coche se rangea à son avis, sans capituler tout à fait cependant. Il n'était pas mauvais qu'un peu de trouble subsistât dans l'esprit du magistrat. Il sentait qu'en disant cela, le commissaire masquait une partie de sa pensée et que, sans tenir compte d'une façon apparente de cette empreinte, il ne pourrait s'empêcher au cours de son enquête d'en faire état. Il dit donc d'un air assez détaché, autant que je puis l'affirmer, il me semble bien que personne de vous n'a marché sur la plate-bande. Pendant que vous traversiez le jardin, je vous suivais les yeux, et j'aurais remarqué, je crois... Ah, la seule chose dont je suis certain, c'est que cette empreinte était d'une honnêteté parfaite lorsque je l'ai vue pour la première fois. Maintenant, je vous le répète, de là à certifier qu'elle existât avant votre arrivée dans l'allée... Oh, le mieux en tout cas, de n'en point parler. Cette dernière phrase acheva de rassurer le commissaire. Il lui eût été désagréable qu'on pût lui reprocher d'avoir été moins perspicace qu'un journaliste. Cette faute pouvait nuire à son avancement, et reconnaissant à Coche d'avoir deviné sa pensée, devancé ses désirs, il lui dit d'un ton presque amical: montez dans la voiture avec moi, j'aurai le temps de vous donner quelques tuyaux. Je préférerais, dit Coche, le sentant un peu à sa discrétion, pénétrer avec vous ne fût-ce qu'une minute dans la chambre du crime. Les renseignements que vous me donnerez me seront précieux, sans aucun doute, mais qu'un confrère vienne dans une heure à votre commissariat, vous ne pourrez guère lui taire ce que vous m'aurez révélé. Tandis que, vous voyez, je suis seul journaliste avec vous. Les autres, perdant patience, sont partis. Et, si vous accédez à mon désir, il vous sera facile de répondre à ceux qui se plaindraient d'avoir été moins favorisés que moi. Il fallait être là. Et puis, une chose vue prend une importance énorme aux yeux du lecteur. Quand bien même je ne resterais en présence du corps qu'une seconde, je pourrais en donner une impression bien plus violente. Oh, si cela vous tient tant au cœur, suivez-moi donc, dit le commissaire. Nous ne ferons qu'entrer et sortir, mais du moins vous aurez vu. Bon, je n'en demande pas davantage. Le petit groupe entra dans la maison. Le corridor que Coche avait exploré la nuit à tâtons lui parut très large. Il se l'imaginait étroit, avec des dalles grises, des murs nus et blancs. Le carrelage était en briques rouges luisantes. Le mur d'un vert tendre était orné de vieilles gravures, d'ormes, de bibelots anciens, et l'escalier, qu'il jurait de bois avoir moulu, était en pitch-pain ciré. Tout dans cette demeure était propre et gai. L'escalier Graville se reconnut mieux sur le palier et de lui-même s'arrêta devant la porte. Il regretta cet arrêt involontaire et se demanda « À la place du commissaire, l'aurais-je remarqué ?» Mais il n'eut pas le temps de réfléchir longuement. La porte s'était ouverte, il fit un pas et s'arrêta très ému. Ce retour dans la chambre où il avait passé des minutes si effrayantes était doublement impressionnant. En l'espace d'une seconde, il déplora son projet de la veille et la curiosité qui l'avait poussé à revoir ce spectacle. D'un geste machinal, sans oser regarder autour de lui, il se découvrit. Chose étrange, lui qui n'avait pas craint de fouiller les papiers épars, de remuer les linges maculés de sang, de toucher même ce cadavre à l'heure où tout était danger, où, ignorant des êtres et des lieux, il risquait sa vie pour un geste, pour un murmure, Il tressaillit et retrouva en lui cette peur imprécise, inexplicable et souveraine qui, la veille, l'avait étreint sur le boulevard solitaire près du quartier de gendarmerie. « Faites bien attention, lui dit le commissaire, ne touchez à rien, ne déplacez rien, même pas ce morceau de verre, là, sous votre pied. Rien n'est négligeable en pareil cas. Là, là, c'est un fragment de bouton de manchette. Ça n'a probablement aucune importance, mais on ne sait jamais. » Koch n'était pas de ceux qui demeurent longtemps sous une impression pénible. À force de blaguer les autres, il en était arrivé à se blaguer lui-même, et la réflexion candide du commissaire l'emplit d'une joie profonde. Ce bouton de manchette sans importance. Il réfléchit. Et si ce policier était de première force? S'il avait su démêler au milieu de ce désordre ce qui est vrai de ce qui est truqué? S'il lisait en moi, ironique à sa façon, s'amusant à me voir, me donner tant de peine pour mal mentir. Le commissaire reprit. Tout indique une lutte courte, mais désespérée. Cette table déplacée, cette chaise brisée, la glace fendue, le corps renversé sur le bord du lit, regardez-le. Vous ne trouverez jamais face d'assassiné plus effrayante. Toute la scène du meurtre est là, sur cette figure. Je la devine aux lèvres retroussées, aux yeux révulsés. Je la lis sur ses mains agrippées au drap. N'est-ce pas que c'est terrible? Vous n'avez jamais rien vu de pareil, j'en suis sûr. Si, murmura Koch, se répondant à lui-même, j'ai vu un jour un homme assassiné, mais assassiné depuis une heure, une demi-heure à peine. À peine refroidi, il gardait comme un souvenir de la vie dans les yeux. Il était étendu ainsi dans une mare de sang. La blessure qu'il portait était presque identique, et cependant, il avait je ne sais quoi de plus sinistre que celui-ci. Celui-ci, je le regarde, sans peur, comme je regarderais un visage de cire. C'est un mort, simplement. Cette chambre est pareille à 20 autres chambres, tandis qu'en contemplant l'autre, enfin, celui que j'ai vu autrefois, j'eus la sensation qu'il lui restait de l'épouvante autour de la figure, entre les lèvres, devant les yeux. La maison, une maison paisible et gaie comme celle-ci, suait le meurtre, sentait le sang vivant, chaud et fumant, pareil à celui qui coule entre les dalles des abattoirs. Demain, dans 8 jours, j'aurai oublié celui qui est devant moi. L'autre, je garde son image, et je sens que je la garderai toujours. Il avait parlé d'une voix sèche, appuyant les phrases, crispant les doigts, à la fois tenaillé par une épouvante réelle et enivré par la volupté redoutable de se savoir au bord de l'abîme et de penser, en ce moment, les mots que je dis n'ont de sens que pour moi. Nul ne peut lire derrière la barrière infranchissable de mon crâne, où dort toute la vérité. Je la tiens dans ma main, comme un oiseau captif. J'entr'ouvre les doigts et je la sens battre mes paumes, prête à m'échapper. Je resserre mon étreinte, je l'étouffe, je la reprends. Je n'ai qu'un mot à dire, un geste à faire. Non, non, je ne dirai pas ce mot, je ne ferai pas ce geste. « C'est curieux, j'aurais cru, » fit le commissaire. « Moi qui pourtant ai l'habitude de ces sortes de spectacles, j'avoue que celui-ci m'a causé une émotion extraordinaire. Et c'est à Paris que vous avez vu ce mort ?»« Oh non, non, province, où il y a longtemps, une dizaine d'années, » balbutia Koch. En entendant que sa voix sonnait le mensonge, il ajouta, pour effacer l'impression bizarre causée par son récit, « Oh, je débutais dans une petite feuille locale du côté de Lyon. Le crime assez banal ne fit de bruit que dans la région. Je me souviens qu'on n'en parla pas du tout dans les journaux de Paris. Cette fois, il eut la sensation très nette que les trois hommes avaient les yeux fixés sur lui, et son angoisse fut si violente qu'il dut reculer d'un pas et s'appuyer au mur pour ne pas fléchir sur ses jambes.
Ben, je crois, dit le commissaire, que vous en avez vu assez pour faire votre article.
Mais que diable, vous qui avez de pareils souvenirs, vous devriez être un peu plus solide. Vous êtes effroyablement pâle.
Oui, je sens, je dois en effet être très pâle. Brusquement, la tête m'a tourné.
Oh, ce ne sera rien.
Allons-nous-en, répondit le commissaire en lui montrant le chemin, et à mi-voix, il glissa son secrétaire.
Oh, tous les mêmes, ces sacrés journalistes. Ils ont toujours vu plus fort, et quand ils sont au pied du mur...
Coche n'entendit pas, mais voyant le commissaire parler bas en le regardant de côté, convaincu qu'il s'était trahi par sa sortie maladroite et son insistance à donner des détails que personne ne lui demandait, il pensa « Oh déjà, mais je ne suis qu'un maladroit !»
En traversant la chambre, ses yeux se portèrent sur la glace. Son visage s'y reflétait à la place où il l'avait vu la veille. Il lui sembla qu'il était bien plus pâle, qu'un cercle plus foncé se creusait au-dessous de ses yeux, qu'un rictus plus sinistre tordait sa bouche, et que sa face, enfin, était pareille à celle des condamnés à mort que le bourreau traîne sous le couteau. Il ferma les yeux pour ne plus se voir et sortit de la chambre, les épaules serrées, les jambes raides, claquant des dents. Il ne reprit son sang-froid que dans la rue. L'air frais qui lui fouettait le visage dissipa la fausse vision. Il sourit de sa terreur et, assis dans le fiacre, s'écria «
Ben, décidément, j'ai perdu l'entraînement. Pardonnez-moi, j'ai été lamentable au-dessous de tout. Peu manque d'habitude. »
La voiture roulait doucement, secouée par le trot inégal du cheval poussif. La lumière, un instant plus vive sous la caresse du soleil frileux, commençait à s'éteindre. Une ombre grise descendait du ciel plus bas. La neige se mit à tomber, d'abord en une poussière fine, puis à gros flocons serrés et lourds qui descendaient verticalement dans le grand silence du boulevard désert. Les deux hommes se taisaient, plongés dans leurs réflexions. Coche effaça du bout des doigts la buée du carreau et regarda le sol, les maisons et les flocons de neige. Il aurait bien voulu savoir ce que pensait le commissaire, ce qu'il avait vu, ce qu'il croyait, mais par une prudence excessive, il hésitait à parler le premier. Pourtant, se rendant compte que son mutisme pourrait sembler surprenant, il demanda « En somme, votre avis sur cette affaire, monsieur le commissaire, est-ce le crime banal ayant le vol pour mobile ou pensez-vous qu'on doive lui chercher des causes plus obscures, plus lointaines ?»«
S'il faut vous donner ma pensée exacte, je vous dirai que dès à présent, j'écarte le vol. » Je ne prétends pas, bien entendu, que certains objets, des valeurs même, n'aient point disparu. Je suis certain, tout au contraire, qu'on a soustrait des bibelots, de l'argent. Mais c'est pour avoir l'air.
C'est-à-dire qu'on a tenté d'établir une mise en scène capable d'égarer la justice.
Diable, songea Coche, serais-je tombé sur un monsieur Lecoq en chair et en os ? S'il en est ainsi, la veine ne veut pas de moi. » Et tout haut, il ajouta, « Hé hé, ah voilà qui est tout à fait intéressant. J'avoue que rien de ce que j'ai pu voir n'avait fait naître en moi un semblable soupçon. Ainsi posé, le problème apparaît singulièrement compliqué.
Pour un esprit superficiel, oui, mais pour moi, qui... depuis 23 ans, et pris l'habitude d'évoluer dans les milieux les plus divers, Parmi les intrigues les plus savamment ourdies, il n'en va pas de même. Bref, s'il me fallait exprimer mon impression, je dirais un homme, parfaitement au courant des habitudes du vieillard, est entré dans la maison, s'est emparé de papiers capables ou de lui être utile ou de le compromettre. Ah ben, dit Coche, extraordinairement intéressé, des papiers? De simples papiers, vous croyez? J'en suis sûr. J'ai trouvé dans un tiroir plusieurs centaines de lettres pêle-mêle. Elles n'avaient pas été placées ainsi par leur destinataire, j'en jurerais. L'assassin, après les avoir parcourus, après avoir fouillé les enveloppes, a vivement rejeté le tout en désordre. Trouva-t-il ce qu'il cherchait? L'enquête nous renseignera sans doute sur ce point. Le certain, c'est que, afin de faire croire au meurtre ayant le vol pour mobile, il s'est emparé de quelques pièces d'argenterie. Le tiroir du buffet a été bousculé, et d'une somme d'argent qui devait se trouver dans un porte-monnaie, ramassé par mon secrétaire derrière le lit. Mais je ne serais pas étonné que certains bijoux s'étaient été dérobés, toujours pour la raison que je vous exposais au commencement. Je puis vous le confier, puisqu'aussi bien dans une heure, tous les bijoutiers de Paris et demain tous les bijoutiers de France le sauront, j'ai trouvé par terre un fragment de bouton de manchette dit à Chaînette, qui appartenait vraisemblablement à la victime. Enfin, et ceci pour n'être qu'un argument psychologique, n'en a pas une moindre valeur à mes yeux. L'ordre, enfin si je puis exprimer ainsi, qui régnait dans le désordre. Je ne sais quel souci de propreté, mêlé à l'horreur du massacre, me permettent d'affirmer que le crime est l'œuvre d'un personnage appartenant à une classe plutôt élégante de la société. Que ce personnage est un être parfaitement équilibré, doué d'un rare sang-froid, et qu'il a agi seul. Je vous dirai encore, mais je vous en ai déjà trop dit. Coche avait écouté le commissaire sans l'interrompre. Son inquiétude du début avait fait place à une satisfaction profonde. Son plan, si vite établi, si rigoureusement exécuté, n'échouerait pas. Il en était sûr maintenant. Bien plus, sa mise en scène suggérait à la police des idées auxquelles lui-même n'avait pas songé. On eût dit que le commissaire compliquait les choses à plaisir et qu'au lieu de déduire logiquement des faits à un commencement de preuve, il s'efforçait de jouer la difficulté. Il n'était pas jusqu'aux choses les plus simples qui ne prissent pour lui l'aspect d'indices sérieux. Parti sur une fausse piste, il ramenait à son idée première les faits les plus divers. Ayant écarté dès la première minute l'hypothèse d'un crime de rôdeur, la seule véritable et la plus plausible en tout cas, il interprétait tout en fonction de sa théorie personnelle. Au premier pas, sans hésitation, tête baissée, on était allé donner dans le piège que lui, Coche, avait tendu. Lorsque le commissaire avait dit « On a imaginé une mise en scène capable d'égarer la justice », Coche avait cru que le magistrat, doué d'une rare pénétration d'esprit, avait entrevu la vérité, alors qu'en réalité, il l'entourait d'un nuage plus épais, la protégeait derrière une barrière plus infranchissable. Ainsi, non seulement sa ruse n'était pas soupçonnée, mais par une extraordinaire transposition des faits, pour l'homme chargé de guider les premières recherches, tout ce qui avait semblé aux journalistes devoir constituer un début de charge contre lui n'était tenu que pour quantité négligeable. Cette interprétation lui parut si bouffonne qu'il voulut l'entendre formuler nettement des termes ne laissant place à aucune équivoque. Mais si je vous comprends bien, l'assassin unique, l'homme du monde meurtrier, a voulu faire croire à un crime de rôdeur. Il a essayé, sans y parvenir, de faire du désordre. Il n'a pas volé, ainsi que l'aurait fait un professionnel du cambriolage. Il a opéré seul et a voulu faire croire qu'il avait des complices.
Exactement.
La voiture s'était arrêtée à la porte du commissariat. Koch descendit le premier et tapa du pied pour se dégourdir les jambes. Il était d'une humeur charmante, les choses marchaient mieux qu'il n'aurait osé l'espérer. En quelques heures, il avait recueilli plus de renseignements, il avait entendu formuler plus d'erreurs qu'il ne lui en fallait pour rédiger ses deux premiers articles. Il en remercia le commissaire et lui dit très naturellement « Ah, avec ce que vous m'avez confié, me voilà tranquille. Je suis tout à votre disposition si je puis vous être utile en quoi que ce soit. » « Bon, ne dis pas, à l'occasion. Un mot encore. Vous ne ferez pas état dans votre procès-verbal de l'empreinte que je vous avais signalée dans le jardin ?»« Bon, mon Dieu, non, puisqu'aussi bien, je ne l'ai vue qu'à peine. »« Juste, très juste. Bon, de bon côté, alors je n'en parlerai pas. »« Allons, au revoir, monsieur le commissaire, et encore merci. »« Tout à votre disposition, et à bientôt, j'espère. »« À bientôt. » Et maintenant, songe à Coche, à nous deux.